France Musique. Été classique, les grands interprètes, France Musique.
Les grands interprètes, toute cette semaine, sont consacrés à John Eliot Gardiner, période française, période lyonnaise. Mais on va commencer quand même, comme tous les jours de cette semaine, par un petit bac.
Thank you.
Le début du Magnificat de Jean-Sébastien Bach par John Eliot Gardiner, les solistes baroques anglais, le chœur Monteverdi, c'est la deuxième version discographique de John Eliot Gardiner. Le Magnificat fait partie des œuvres qu'il dirige très très régulièrement de Jean-Sébastien Bach. Là, c'était en 2017 pour son propre label, Solideo Gloria. Il y avait eu, il y a des années de cela, en 1983, pour Philips, une première version, et c'est intéressant de comparer ces versions, de voir de quelle manière John Eliot Gardiner s'est à la fois assoupli et libéré, si tant est qu'il n'ait jamais été sous carcan, il n'a jamais vraiment été non plus dans la musique de Jean-Sébastien Bach, mais enfin ça a pris, on s'en rend bien compte, à ces trois extraits enchaînés qu'on a pu voir ici. Tout d'abord le Magnificat d'ouverture, la première pièce qui est tellement vive en règle générale, mais qui prend une espèce d'urgence, de très grande rapidité avec John Eliot Gardiner, et puis ce qu'on vient d'écouter là, ce chœur qui est de toute façon vom Himmel, c'est-à-dire du ciel vers les hauteurs, mais qu'il transforme, enfin qu'il transforme, qu'il met grâce à la prise de son quasiment dans le lointain. Enfin il y a une liberté dans la manière de saisir la musique de Jean-Sébastien Bach et la musique en général chez John Eliot Gardiner ces dernières années, qui est vraiment tout à fait admirable. Alors, petite réserve, sans doute, l'air qu'on a entendu au milieu, comme je vous le disais il y a deux jours, aujourd'hui, John Eliot Gardiner fait beaucoup de ce type de pièces, en tout cas, avec des chanteurs de son chœur, le chœur Monteverdi, le Monteverdi Choir. C'est très bien sur le principe, mais encore une fois, ce n'est pas des chanteurs solistes de très très haut niveau, c'est d'excellents chanteurs de chœur, on pourrait dire de bons solistes aussi, mais peut-être que là, il y a quelque chose qui pêche un peu parfois dans ses interprétations. On se rend bien compte que quand c'est l'orchestre et le chœur, c'est quand même absolument admirable. Alors, on a laissé hier John Eliot à l'orée des années 80. On va parler dans quelques instants des Boréades, grand événement à Aix-en-Provence cette année 1982. Mais auparavant, un petit détour par la musique de Jean-Philippe Rameau. Ici, ce sont des extraits orchestraux de Dardanus qu'on entend sous la direction, bien sûr, de John Eliot Gardiner. Thank you. L'entrée des songes et le rondeau tendre du sommeil, extrait de Dardanus de Jean-Philippe Rameau, les solistes baroques anglais, John Eliot Gardiner en 1983, extrait d'un disque suite d'orchestre autour de Dardanus. Très important ce disque, d'une part parce qu'il nous montre à quel point Gardiner sait faire chanter un orchestre, il apporte la vocalité de l'opéra immédiatement dans le simplement instrumental. Important aussi parce qu'il crée une sorte de modèle pour la suite de la vie discographique de ce que peut être un programme de page orchestrale de Rameau, et on sait que c'est quelque chose qui est régulièrement fait par des musiciens baroques encore jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire qu'il y a des pages d'orchestre magnifiques chez Jean-Philippe Rameau. Alors le grand événement qu'il faut voir au tout début des années 80, c'est donc 1982, la reprise des Boréades de Jean-Philippe Rameau au Festival d'Aix-en-Provence. Enfin, je dis reprise, le terme n'est pas juste. En réalité, la tragédie lyrique n'avait jamais été jouée du temps de Rameau, qui était mort quelques mois après que les pièces étaient mises en répétition et puis finalement abandonnées pour des raisons qu'on ne connaît manifestement pas. Il y avait bien eu une diffusion radiophonique en 1964 à l'ORTF, une exécution de concert en 1975 par Gardiner lui-même, mais rien d'autre pour la scène. Et c'était donc en 82 que le Festival d'Aix-en-Provence proposa ses Boréades dans la mise en scène de Jean-Louis Martinotti et Gardiner à la baguette. Ce fut un événement assez considérable à l'époque pour la reconnaissance de Rameau et puis pour celle aussi de Gardiner.
Thank you.
Les vents, le tonnerre, les éclairs, au troisième acte des Boréades de Jean-Philippe Rameau, c'était en 1982. John Eliot Gardiner avec les English Baroque Soloists et toutes les troupes qu'on avait pu voir quelques mois auparavant au Festival d'Aix-en-Provence.
Été classique, Lionel Esparza, France Musique.
Autre date importante, et bien quelques mois après, en 1983, John Eliot Gardiner prend la tête de l'orchestre de l'Opéra de Lyon. C'est un moment très important pour lui, c'est plus un tout jeune homme, il a déjà une carrière de 20 ans derrière lui. 40 ans quand même, c'est pas énorme pour prendre un orchestre institutionnel, d'autant que celui-là est en pleine formation. Enfin, c'est la première fois en France, en réalité, qu'on crée un orchestre d'opéra, en 1982, après celui de l'Opéra de Paris. Autant dire que les enjeux institutionnels, politiques, administratifs et culturels sont très forts à l'époque. Cela va peser peut-être un peu sur le mandat de John Eliot Gardiner à l'Opéra de Lyon. Ce qui est certain, c'est qu'il y a montré de belles qualités de bâtisseur d'orchestre. À l'occasion, on a pu voir aussi quelques productions assez mémorables qui ont donné du disque derrière. Exemple, cette étoile d'Emmanuel Chabrier.
Thank you.
La belle voix de Colette Alliot-Lugaz en Lazuli de l'étoile d'Emmanuel Chabrier. C'était John Elliott Gardiner avec l'orchestre de l'Opéra de Lyon. 1983-1988, 5 ans le mandat de Gardiner à la tête de l'Opéra de Lyon. C'est pas si long que ça, ça aurait dû être peut-être, ça aurait pu peut-être être plus long, mais il faut dire que ça a été un peu ambivalent. Je l'ai dit, il a fait preuve là-bas de qualité de bâtisseur d'orchestre, parce que c'était un orchestre tout neuf, tout nouveau, tout jeune. Mais en même temps, il y a le caractère de John Elliott Gardiner, dont on a dit déjà dans cette émission qu'il était direct, impérieux, blessant, cassant parfois, il faut dire ce qu'il est. Les rapports avec les musiciens de l'orchestre n'ont pas été toujours très bons, ils sont même devenus parfois tout à fait exécrables. Mais enfin, c'était l'occasion pour Gardiner d'élargir vraiment son répertoire bien au-delà du baroque, ce qu'il avait fait déjà maintes fois, on l'a dit dans cette émission, mais dans des directions en particulier musique française, parfois un peu étonnantes, comme par exemple ces Brigands de Jacques Offenbach, où on ne s'attend pas à voir le spécialiste de Bach et de Handel dans des bouffonneries à la française. Il se trouve que Gardiner a été un des premiers à montrer qu'on pouvait traiter, qu'on devait traiter ce répertoire-là avec respect. On a le droit de ne pas le faire, si on n'aime pas, on ne le fait pas, mais si on choisit de le faire, on le fait bien.
Transformé bientôt en marmiton pour capturer la suite du prince. Une fois cela fait, nous changerons de masque pour surprendre l'escorte de la princesse. Et ensuite, nous enfilons ces déguisements pour aller chercher les 3 millions. N'est-ce pas là une belle comédie? En fin de compte, nous sommes de véritables artistes. Il suffit d'enfiler ces vestes, de mettre ces toques, et la magie du théâtre nous transporte dans une comédie musicale célèbre intitulée...
Les brigands du Grand Hôtel.
Bravo, Fragoletto. Les 3 bandits sont déguisés en marmiton.
Mélodrame. Admettons qu'un client, à ce moment même, entre dans le restaurant.
C'est ça qui serait amusant.
Oh, voilà qui pourrait se vanter d'être bien reçu.
Si bien reçu qu'après être venu ici, il lui serait impossible d'aller autre part.
Les bandits prendraient l'air si engageant.
Et il l'appellerait d'une voix si douce.
Il lui dirait... si gentiment.
Arrête-toi, donc je t'en prie, arrête-toi, viens, nous t'invitons à visiter l'hôtellerie des trois jolis, jolis marmitons. Arrête-toi dans l'hôtellerie des trois jolis, jolis marmitons, des trois jolis, jolis marmitons. Arrête-toi, viens, je t'en prie, arrête-toi, viens, nous t'invitons à visiter l'hôtellerie des trois jolis, jolis marmitons. Arrête-toi dans l'hôtellerie des trois jolis, jolis marmitons, des trois jolis, jolis marmitons, des trois jolis.
Allez, tout le monde en place. Dans ces brigands de Jacques Offenbach, version John Elliott Gardiner, à l'époque où il était à l'Opéra de Lyon, on se rend compte ici des qualités de Gardiner à peu près dans tous les répertoires, mais qui font merveille vraiment dans ces brigands de Jacques Offenbach. La précision, le côté très enlevé, léger, subtil à la fois, magnifiquement travaillé. Il y a beaucoup d'exigences derrière. On le sent pour la mise en place de tout ça. J'y reviens à une question de goût aussi qui est fondamentale chez John Elliott Gardiner. Il sait jusqu'où on peut aller, jusqu'où il ne faut pas aller. Enfin bon, bref, tout ça apporte un équilibre tout à fait formidable. Alors, parmi les chanteurs qui marquent ces années 80 pour John Lee Gardiner, il y a Anthony Rolfe Johnson, par exemple, qu'on a déjà évoqué dans cette émission, plutôt pour le répertoire de musique ancienne, et puis pour des répertoires beaucoup plus larges, Anne-Sophie von Otter, dont on peut dire que toute une part de la carrière s'est construite avec John Lee Gardiner et parallèlement à lui. On va s'en rendre compte peut-être dans ce qui suit, et se rendre compte aussi non seulement du lien qu'il y a entre le chef et la chanteuse, mais de cette capacité qu'ont les deux ici de construire un grand récit en se suivant avec beaucoup de souplesse et d'adaptabilité dans les tempi. C'est dans Orphée et Eurydice de Gluck.
Thank you.
Orphée accablé par la mort, la disparition de son aimé, c'était ici Anne-Sophie von Hauteur avec l'orchestre de l'Opéra de Lyon, dirigé par John Eliot Gardiner, dont cet extrait d'Orphée et Eurydice de Gluck.
Été classique, Lionel Esparza, France Musique.
En ces années 80, John Eliot Gardiner passe beaucoup de temps évidemment à l'Opéra de Lyon, mais il a aussi la possibilité d'enregistrer et de faire toujours de la musique avec ses propres ensembles qui continuent leur vie et leur carrière. Et en 89, événement important encore un, il a décidément beaucoup dans ces années-là, la parution du Messie de Handel par John Eliot Gardiner. Événement très attendu, pourquoi ? Parce que Gardiner avait fait des choses tellement formidables dans la musique de Handel dans les années précédentes, il avait à ce point allégé la musique du compositeur, nous l'avait rendu, comme je vous le disais hier, beaucoup moins officiel, beaucoup plus présent, beaucoup plus immédiat, qu'on se disait qu'il fallait qu'il enregistre le Messie. Quand c'est arrivé, on n'a pas été déçus. Avec l'Alléluia tellement connu, c'était quelques extraits du Messie de Handel, le chœur Monteverdi, l'orchestre baroque anglais, enfin les English Baroque Soloists, tous dirigés par John Lloyd Gardiner en 1989. Je voulais refermer cette émission avec Chabrier. À nouveau, on parlait de l'élargissement du répertoire de John Lloyd Gardiner lorsqu'il était en France à l'Opéra de Lyon, découvert aussi, apporté peut-être beaucoup de répertoires français. Et bien par la suite, il a récupéré ce répertoire pour aller le jouer ailleurs. Ainsi, Emmanuel Chabrier, au Philharmonique de Vienne, au milieu des années 90, un disque entier que John Lloyd Gardiner consacrait aux compositeurs français, avec entre autres l'incontournable Fête polonaise du roi malgré lui.
Thank you.
Quand un chef anglais apporte la musique française, un orchestre autrichien, c'était la fête polonaise du roi malgré lui, d'Emmanuel Chabrier, par John Eliot Gardiner à la tête du Philharmonique de Vienne.
À réécouter sur francemusique.fr.